If you fight hard for children and wife, try to get something good from this life. You're a sinner and bad man, they tell. When you die, you will sure go to hell. You will eat by and by in that glorious land above the sky. Work and pray, live on hay. You'll get pie in the sky when you die. Working men of all countries unite. Side by side for freedom we will fight. When this world and its wealth we have gained, to the grafters we'll sing this refrain. When you will eat by and by, when you've learned how to cook and to fry, chop some wood, it'll do you good. You will eat in that sweet by and by. Yes, you'll eat by and by in that glorious land above the sky, way up high. Work and pray and live on hay. You'll get pie in the sky when you die. That's a lie.
Mes bateaux trouant la vague n'a fait une escale en passant. De celles qui sur le rivage regardent les
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Et c'est l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Bonjour. Au sommaire de cette émission, je vous propose la lecture de d'un article parmi quatre, deux articles avec un éditorial extrait de la revue L'information psychiatrique de février 2024. Alors, c'est la revue du syndicat des psychiatres des hôpitaux, ancien syndicat unique des psychiatres des hôpitaux. Ce numéro porte sur le déficit et les inhibitions et comporte une étude sur une déchronicisation pour un patient longuement suivi. Alors, sur l'ASM-13, qu'est-ce que c'est l'ASM-13? C'est l'association de santé mentale du 13e arrondissement de Paris. Petit rappel historique, à noter que la question d'une déchronicisation des patients longuement institutionnalisés et de la mise à effet de programmes de réadaptation comme de réhabilitation psychosociale s'est posée dûment à partir de la désinstitutionnalisation psychiatrique. La désinstitutionnalisation s'amorce avec l'ouverture des institutions psychiatriques au début des années 1970, mais la politique de fermeture systématique des lits de psychiatrie démarre avec la loi du 27 juin 1990. Sur Paris, on a constaté la mise à effet de cette politique de désinstitutionnalisation avec l'ouverture en 1998 de la clinique Rémy de Gourmont dans le 19e arrondissement, établissement dépendant du groupe psychiatrique Maison Blanche. Alors donc, les psychiatres rédacteurs de ces articles ont été des praticiens de l'ASM-13. Alors, je vais commencer par vous lire un extrait de l'éditorial pour présenter le premier article. Agnès Mercier, psychiatre dans une unité de déchronicisation, fait le récit minutieux du traitement prolongé, 8 ans, d'un patient psychotique, dont l'état initial évoque les stupeurs psychiatriques. Nous suivons l'entrelacement des mouvements de désinvestissement-réinvestissement du patient avec les mouvements d'investissement tâtonnant des soignants éclairés par leur réflexion en équipe. Dialectique délicate avec ses pas en avant et en arrière, mais le parcours du patient est progrédient, ce que les divers traitements médicamenteux essayés auparavant n'avaient pas obtenu. La déchronicisation est ici illustrée par la mise en œuvre de soins intensifs endurants par une équipe dont le travail psychique précède celui du patient. Agnès Mercier propose l'ambition du travail de déchronicisation aux objectifs de la réhabilitation. Oppose. Mais ce que l'on observe pour son patient est plutôt la façon dont se sont succédés le succès d'une phase de soins orientée réadaptation et l'entreprise seconde d'une réhabilitation. Alors, donc Agnès Mercier, psychiatre association de santé mentale du 13e arrondissement de Paris, auteur de l'article suivant, « Déchronicisation et levée de l'inhibition, l'expérience du pavillon Gerville ». Alors, ça commence par des citations. La lutte contre la chronicité n'est pas gagnée. L'incurabilité a changé de forme. Les patients ne deviennent pas déments, mais se stabilisent dans une situation de dépendance, d'autant plus insatisfaisante que rien ne paraît détruit de façon irréversible dans leur psychisme, écrivait René Diatine en 1988. Première parenthèse, déjà l'on voit que la guérison souhaitée passe par quelque chose de détruit dans le psychisme. Alors c'est bon, c'est assez curieux. Mais bon, je continue. Trois décennies après la révolution psychiatrique du secteur, pressentant peut-être la nouvelle impasse dans laquelle seraient laissés les psychotiques chroniques les plus graves. Rien ne paraît détruit de façon irréversible dans leur psychisme. C'est pourtant à partir d'un postulat inverse, déficitaire et fixiste, que se sont construites et largement diffusées les méthodes rééducatives actuelles de la réhabilitation psychosociale, qui ne peut offrir aux patients psychotiques à qui elle s'adresse que la maigre perspective de combler les divers déficits qu'elle aura soigneusement préalablement listés. À rebours de ces tristes projets rééducatifs, le pavillon Gerville, pavillon de post-cure pour les patients psychotiques les plus graves, cultive un ambitieux projet thérapeutique de déchronicisation des chroniques. Sortir du temps infini de la chronicité, en ne considérant plus les signes négatifs comme déficitaires et fixés pour l'éternité, mais comme la manifestation d'une inhibition massive et généralisée susceptible donc d'être levée. Gerville, une voie sans issue ? Le pavillon Gerville ouvre ses portes en 2002 dans l'enceinte de l'hôpital psychiatrique de l'Eau-Vive, hôpital essonien qui accueille les patients du 13e arrondissement de Paris. Il est à certains égards bien éloigné de l'idéal de son fondateur Philippe Pommel, qui fut en France l'un des promoteurs de la politique de sectorisation psychiatrique et ambitionnait de réinscrire le patient psychiatrique dans la cité. L'Eau-Vive est en effet un établissement fermé, accueillant quasi exclusivement des patients sous contrainte à 25 km de leur zone géographique d'habitation. C'est que plus d'un demi-siècle après le vaste mouvement de désinstitutionnalisation qui a accompagné la mise en place de la politique de secteur, force est de constater que certains patients, les psychotiques les plus graves, ont encore besoin de soins hospitaliers. Ce constat a conduit nos collègues du 13e à publier en 2011 l'ouvrage « Le besoin d'asile, des lieux pour les psychoses ». La réhabilitation psychosociale qui a troqué l'idée de soigner contre celle de réinsérer et de réadapter se trouve incapable de proposer une alternative à tous ces patients psychotiques chroniques gravement atteints qui ne répondent pas à leur programme. Penser que la seule perspective qu'il leur reste est celle de l'extinction pulsionnelle des nouveaux asiles que constituent de trop nombreuses institutions médico-sociales n'est point satisfaisant. Dans une dynamique résolument thérapeutique et optimiste, le pavillon Gerville est créé en 2002 pour accueillir et soigner les patients psychotiques les plus graves, dits à évolution catastrophique, pour souligner la massivité de leur défense anti-objectale, de leur destructivité et de leur dépendance. L'indication est davantage idéologique que clinique. Le pavillon accueille les patients pour qui toutes les entreprises de sortie de l'hôpital ont échoué, y compris les patients violents et ceux qui ont d'une façon ou d'une autre tant usé et désespéré les équipes qu'il faut les en éloigner. L'ambition n'est pas des moindres et ses noms sont en forme de paradoxe. Soigner les incurables, faire sortir les insortables, déchroniciser les chroniques. Malgré les réussites thérapeutiques et l'engagement des équipes de soins du pavillon Gerville, le service reste dans l'esprit même de certains de nos collègues de l'Eau-Vive, pourtant biberonnés aux théories psychodynamiques, au lieu de l'incurabilité et de l'impasse. Récemment, et sans que personne ne s'en émeuve, l'équipe du service technique de l'hôpital a apposé devant le pavillon un panneau signalétique « Voie sans issue ». Voilà une des manifestations de la force de la pulsion de mort, des fantasmes d'éternité et d'inséparabilité qu'elle charrie et qui gagne les équipes soignantes de patients psychotiques chroniques. Sentiment d'impuissance, d'impasse, de voie sans issue. Alors voilà l'interprétation tout à fait psychiatrique, un graffiti ou un panneau, voilà, un panneau signalétique, c'est la pulsion de mort, hein, bien sûr. Bon, tout est diagnostiqué. Alors, on continue. Pourtant, le bilan du pavillon 20 ans après son ouverture est plus qu'encourageant. La quasi-totalité des patients accueillis à l'ouverture, ceux qu'on avait décrétés inséparables, ont bel et bien quitté l'hôpital. Certains pour des appartements privés ou des logements associatifs, d'autres pour des familles d'accueil, d'autres enfin pour des maisons de retraite. Dispositif de soins et mantra antidéficitaire. Le dispositif de soins du pavillon Gerville, ses outils et ses axes de travail reposent sur une vision foncièrement antidéficitaire de la psychose chronique. Il est temps de rappeler ici combien les théories du déficit ont pris ces dernières années une grande importance dans la communauté psychiatrique de celle qu'on n'avait pas connue depuis Kraepelin. Les néo-Kraepeliniens considèrent aujourd'hui que tout schizophrène porte en lui les germes du déficit, inéluctable une fois éclos, et qui ne peut alors qu'espérer être vaguement comblé par des méthodes rééducatives. C'est à rebours de cette approche et réfutant cette conception mortifère et fixiste de la maladie mentale que les équipes soignantes travaillent à Gerville avec l'idée et même le principe fondateur répété comme un mantra « la psychose déficitaire, ça n'existe pas ». Dans une approche psychodynamique de la psychose, empruntant à Freud son point de vue économique sur la répartition de l'énergie psychique, les signes dits déficitaires sont considérés comme la manifestation d'un mouvement de désinvestissement massif et global du monde objectal et du monde interne. En suivant cette approche, l'énergie psychique est susceptible, grâce aux soins, d'être réinvestie. Par ailleurs, s'appuyant sur les travaux de Mélanie Klein, les manifestations déficitaires sont analysées dans leur dimension transférielle. Les comportements des patients, y compris les plus apparemment immotivés, ne sont pas considérés comme résultant du seul désinvestissement, mais le sont aussi dans leur dimension de destructivité agie contre l'objet soignant. En pointant cette destructivité, l'équipe s'impose comme objet aux patients psychotiques. Le travail de l'équipe au sein du pavillon peut être décrit schématiquement, selon trois axes principaux de travail, l'axe narcissique, l'axe objectal et l'axe temporel. Au service de ce travail, l'équipe dispose de plusieurs outils. Laugier et Tolliou, respectivement psychiatres et psychologues au pavillon Gerville, les ont dénombrés dans leurs articles Penser les soins spécifiques des patients psychotiques institutionnalisés au long cours. Alors, il y a cinq points. 1. Les soins corporels comme instrument de restauration du moi. 2. L'organisation d'activités concrètes comme instrument de fabrication d'une réalité partagée. 3. Les entretiens psychiatriques réguliers comme espace de narration des expériences partagées. 4. L'aménagement d'espaces psychothérapiques comme instrument du passage du faire aux pensées. 5. La scansion du temps comme instrument de rétablissement de la temporalité. Ce dispositif se développe dans un service où se partagent une culture et une éthique commune, où souffle un esprit des soins, un style alimenté par notre fameux mantra répété à l'envi, le déficit, ça n'existe pas. La lente mais spectaculaire levée d'inhibition de Daniel, patient psychotique chronique accueilli et soigné plusieurs années au pavillon Gerville, en a apporté la meilleure preuve. Daniel a 43 ans quand il intègre le pavillon Gerville. Il est en soins depuis 22 ans et a passé de longues années à l'hôpital. Les nombreux traitements entrepris, médicamenteux et institutionnels, n'ont pas permis de le sortir de son état. Une symptomatologie délirante et mélancolique, toujours très active et au premier plan, un repli profond et une atymormie confinant à la dévitalisation. Daniel est le deuxième d'une fratrie de trois frères. Il a un frère jumeau, Yann, qui s'est donné la mort à l'âge de 26 ans. Ses parents sont tous deux professeurs et sont tous deux suivis pour des troubles psychiques. À la maison, la violence et les conflits sont quotidiens. Son échec au BTS à l'âge de 22 ans précipite son entrée dans la maladie et le contraint à retourner vivre chez ses parents. S'ensuit alors une longue série d'hospitalisations et de nombreuses tentatives de soins ambulatoires. Daniel a des voix, il est extrêmement angoissé et sombre. Son frère jumeau se suicide après avoir fait un pacte mortel avec Daniel que ce dernier rompt en ne se présentant pas au lieu de rendez-vous. Mais c'est le suicide de sa petite amie quelques années plus tard qui précipite sa plus grave décompensation. Daniel est catatonique, alterne des phases de mutisme et de perplexité avec de grandes agitations au cours desquelles il se mutile, s'arrache les cheveux, les sourcils. Il ne s'apaise qu'au prix de posologie massive de neuroleptique. Puis il s'éteint à petit feu, s'enfonçant dans un repli profond, un apragmatisme majeur et une hypotonie généralisée. C'est dans ce contexte de désespoir partagé par le patient et les équipes qu'il est admis au service Gerville et que nous le rencontrons. Petit, enveloppé, il a la démarche traînante, les épaules et le regard tombant. Un soignant note que ses vêtements ont l'air de dégouliner sur lui. Il bave, sa tête penche du côté droit, comme si son cou ne le tenait plus, même ses muscles semblent avoir abandonné. Il est inerte, éteint, comme l'écran noir de la télévision qu'il peut fixer des heures durant. Absolument passif, il se laisse voler son petit déjeuner à la cantine le matin, sans réagir. Sa pensée est sans cesse barrée, il y a des blancs, oublie ce qu'il vient de dire. En entretien, il n'a aucune parole spontanée, et aux questions sur sa santé, il répond en marmonnant invariablement la même chose. Il est angoissé, il entend des voix, lui... parler de la mort, de sa propre mort. Son état tend vers le blanc, le vide, l'inexistence. On ne peut imaginer qu'il a eu un jour des amis, une copine, un appartement, une vie en somme. Sa pulsionnalité paraît se réduire à son seul désir de mourir et laisse planer continuellement un risque suicidaire. Le premier mouvement de l'équipe est la sidération. Comment travailler avec ce risque suicidaire permanent? Comment entrer en lien avec Daniel sans éveiller trop brutalement sa pulsionnalité endormie? L'équipe fait un premier choix fort. Elle décide de ne plus interroger Daniel sur ses idées morbides et suicidaires. S'il pouvait sembler paradoxal qu'une équipe psychiatrique décide de ne plus écouter, c'est qu'elle comprend que chez Daniel, les mots ne sont plus au service de l'échange et du lien, mais qu'au contraire, sa parole s'est automatisée et s'oppose comme une défense bien rodée à toute mise en lien, à tout échange et finalement à toute possibilité d'une relation. Elle correspond à ce que Freud a nommé « langage d'organe », une forme de défense ultime au service de la désobjectalisation qui fait que cet organe majeur, la parole, la voix, et spécifique de l'espèce humaine, se retrouve désinvesti de sa fonction de mise en lien de l'homme avec ses semblables. Donc, fin de citation. Ainsi que le résume Capsambellis dans son article « Le langage d'organes ». Dans une acceptation plus extensive, Evelyn Kestenberg a décrit la phobie du fonctionnement mental pour décrire une modalité spécifique d'angoisse suscitée chez le sujet par sa production psychique propre. Prenant acte de la terreur ressentie par Daniel, l'équipe décide de ne pas l'abandonner à son triste sort et de ne pas céder à ce qu'elle appelle son chantage au suicide. Mais décider de ne pas tout écouter n'est pas arrêter de penser. La notion d'action parlante de racamier nous permet de continuer à penser à un soin psychothérapeutique pour des patients psychotiques chez qui la parole ne semble trouver aucun écho. Il s'agit des actions du quotidien du travail institutionnel qui sont porteuses de sens, aussi bien pour le patient que pour les soignants. Elles sont l'équivalent, mis en acte, d'une interprétation qui se répète autant de fois que se produira l'action qui la porte. Elles donnent du sens, un cadre et participent aux fonctions de contenance du collectif soignant. Par exemple, alors qu'il apparaît rapidement que la mère de Daniel exerce sur lui une forme de tyrannie intrusive en téléphonant plusieurs fois par jour, l'aide soignant référent de Daniel prend le combiné et propose autoritairement à sa mère un calendrier des appels limité à deux fois par semaine. Ce qui ne peut s'énoncer par des mots est mis en acte et la conséquence est un soulagement immédiat chez Daniel qui, s'il ne peut pas la penser ainsi, vit cette relation à sa mère comme vampirisante et terriblement angoissante, ainsi qu'il pourra l'exprimer des années plus tard. L'équipe initie un travail de restauration narcissique avec Daniel en suivant un premier axe de travail corporel. Il s'agit de réapprendre l'hygiène corporelle, celle des pieds, des dents, acheter de nouveaux vêtements à sa taille, jeter son vieux manteau informe et imiter. Et puisque le narcissisme ne peut pleinement s'épanouir sans l'objet, l'équipe suit progressivement un axe de travail plus objectal. Comme nous l'avons abordé plus haut, citant les conceptions de Mélanie Klein sur le transfert négatif, l'objet s'impose quand l'équipe pointe la dimension de destructivité des manifestations de l'apparent désinvestissement. N'est-il pas agressif de se ressalir à la seconde même où l'aide-soignante vient de vous aider à vous laver? N'est-ce pas le comble de l'agressivité de sans cesse renvoyer à une équipe psychiatrique et qu'elle ne peut rien contre vos envies suicidaires? C'est ce travail d'objectalisation que réalise l'équipe avec Daniel en prenant la peine de pointer la dimension d'adresse et de destructivité de ses actes, pourtant apparemment sans objet. Le travail d'objectalisation passe aussi à Gerville par la participation des patients aux activités thérapeutiques et la mise en place via la médiation des conditions d'un commerce objectal plus supportable. L'équipe propose des activités à Daniel. Il les accepte toutes, indifféremment, et dévoile progressivement une facette méconnue de sa personnalité. Il est très différent quand il est en activité. Il s'y montre intéressé, intéressant, il fait preuve d'humour, d'une grande culture aussi. En deux mots, il est vivant. Dans les temps informels, en revanche, il reste en retrait, assis dans un coin, inerte. Bientôt, les premiers conflits apparaissent à son sujet au sein de l'équipe. Le clivage fait son apparition. Daniel est inscrit à plusieurs activités au même horaire. Chaque soignant pense qu'il est le mieux placé pour l'aider. On se dispute à son sujet, un peu comme à la maison. Mais ici, le conflit n'est pas mortel, il est aussi attendu qu'utile. Les parties discutent et trouvent un terrain d'entente. C'est un des premiers objectifs des réunions d'équipe qui ont lieu à Gerville une à deux fois par semaine. On fait l'hypothèse que Daniel est passé d'une aconflictualité et d'un clivage serré à l'émergence d'une conflictualité possible, notamment grâce à ces temps de ramassage que constituent les réunions d'équipe. Daniel, qui a souvent été soigné dans plusieurs endroits en même temps, a pu enfin déposer en un seul et même lieu toutes les parties clivées de son moi, qui, grâce au travail de métabolisation et de détoxification de l'équipe soignante, fonction alpha décrite par W.R. Bion, ont pu commencer à dialoguer entre elles. Les temps de réunion sont aussi l'un des principaux outils au service de l'axe temporel. Au cours des réunions, on se raconte l'histoire de Daniel, on se la remémore en convoquant au besoin les collègues d'autres services qui ont connu Daniel dans le passé. Ce faisant, on permet à Daniel de sortir de cette anhistoricité psychotique qui fait le malheur de nombre de chroniques dont on n'arrive plus à se raconter l'histoire. En somme, on déchronicise. Quelques années de soins plus tard, Daniel va beaucoup mieux, il s'est redressé, il marche d'un pas plus assuré, il parle. Nos échanges en consultation s'enrichissent, il parle de sa famille, de son passé, des non-dits et des conflits, il crée des relations avec d'autres patients. Un jour, il me demande en entretien « J'aimerais bien faire une thérapie. C'est la première fois que je l'entends exprimer un désir. » Il intègre le groupe de psychothérapie de l'hôpital qui a lieu une fois par semaine. Puis vient le projet de famille d'accueil thérapeutique qu'il intègre quelques mois plus tard. Travaillant dans ce service également, je continue à le suivre. L'équipe infirmière le rencontre régulièrement et au domicile de l'accueillante, L'équipe infirmière le rencontre régulièrement au domicile de l'accueillante et je le reçois mensuellement en consultation dans le service. Il marche maintenant d'un pas assuré, il se tient droit et quand il entre dans le bureau, il me regarde de son beau regard bleu et me salue, me demande comment je vais, me dit « je vais pas trop mal » pour me répondre. Et puis, on ne l'arrête plus. Il est devenu un vrai moulin à paroles. Il a entrepris une psychothérapie individuelle au centre médico-psychologique. Il reconstitue avec son thérapeute son arbre généalogique. Il suit des soins à l'hôpital de jour de secteur. Il s'y est fait des copains. La destructivité des débuts s'est muée en une agressivité beaucoup plus raffinée et secondarisée. Son accueillante se plaint qu'il fait parfois du bruit en mangeant, qu'il claque les portes. Il y a 2 ans, sa mère est décédée. Il s'est livré en consultation. Une partie de moi est triste, bien sûr, et une autre est quelque part soulagée. Elle n'était vraiment pas facile comme mère, vous savez. Ses voix n'ont pas totalement disparu, mais elles ont en quelque sorte trouvé une issue. Daniel entend la voix de sa mère ou de personnes proches décédées qui l'encouragent, le conseillent. « Tu vas y arriver, tu peux t'en sortir. » Des années plus tard, il explique ce qu'il vivait dans les moments d'apparente mort psychique que nous avons précédemment décrit. J'entendais tout ce qu'on disait, mais je ne pouvais pas bouger ni parler. J'avais de la rage en moi, j'avais envie de taper, mais je ne pouvais rien faire. Une inhibition massive, donc, qui a pu être levée et n'est aujourd'hui plus qu'un lointain souvenir. Si l'on s'en tient à des critères rigoureusement comportementaux, le gain en autonomie de Daniel n'est pas flagrant. Voilà. Alors là, on en est à la conclusion de l'article. Pourtant, tout a changé pour lui. La terreur qu'il habitait s'est muée en une anxiété beaucoup plus supportable. Il a gagné la liberté d'être en lien, de désirer, une forme d'autonomie psychique au prix d'un long travail thérapeutique. On fait l'hypothèse que c'est parce que l'équipe de Gerville a fait le pari de considérer les signes dits déficitaires de Daniel comme résultant d'une inhibition généralisée, susceptible donc d'être levée, qu'elle a conduit son traitement dans ce sens et obtenu ces résultats cliniques impressionnants. Au regard de cette vignette clinique, il se pourrait en définitive que le travail de déchronicisation passe par le rejet des hypothèses déficitaires et fixistes de la psychose, par le retour à une approche psychopathologique et psychodynamique des symptômes psychotiques et par la réinscription du patient psychotique chronique dans une historicité trop souvent négligée. Voilà. Lien d'intérêt, l'autrice déclare ne pas avoir de lien d'intérêt en rapport avec cet article. C'était un article donc de Agnès Mercier, psychiatre, Association de santé mentale du 13e arrondissement de Paris, ASM 13, issu du journal L'Information psychiatrique du 31 janvier 2024.
Pour des acharnés, pour des bruits de liberté, pour chauffer à la casserole toutes nos idées folles, pour nous rendre pacifiques face à la panique. Camisole chimique, pour des cerveaux atypiques, dans un monde chaotique qui se permet des diagnostics, où les mères exacerbées sont tous mis au secret. Camisole chimique pour des cerveaux atypiques, aux remèdes plastiques, à réalité unique, pour jouer à te droguer avec d'autres internés. Camisole chimique pour des cerveaux atypiques, qui selon la psychiatrie apaisera tes insomnies, où ta lucidité sera exterminée. cerveau atypique qui ôtera la magie de tes belles euphories. Où l'irrationnel est passé au scalpel, où nos unités folles sont noyées dans le formol. Camisole chimique pour des cerveaux atypiques, pour te faire taire dans un monde sécuritaire, pour coller une étiquette, y compris dans ta tête. Camisole chimique pour des cerveaux atypiques, pour nous ramollir au lieu de nous faire jouer avec chambre d'isolement, éviter tout rassemblement. Camisole chimique pour des cerveaux atypiques, camisole chimique pour des cerveaux atypiques, camisole chimique pour des cerveaux atypiques. Et si tu pètes un pont, évite le tourbillon.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Et c'est toujours l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Et aujourd'hui, on va continuer à lire les trucs sur la psychiatrie. Alors, on a lu un article de psychiatre. Maintenant, on va lire un article de personnes concernées, psychiatrisées ou étiquetées malades. Alors voilà, c'est deux articles de Mélitruc. Mélitruc.wordpress.com. Alors, celui-ci s'appelle « C'est quoi ton handicap ?» Et puis le second, c'est sur le diagnostic. « Tu n'es pas ton diagnostic. » Alors, « C'est quoi ton handicap ?» Donc, du 27 avril 2019. « C'est quoi ton handicap ?»« Mon handicap, c'est toi. » Un trait de Spoonyville a fait débat hier, donc le 26 avril 2019, sur Twitter, parmi la communauté malade et handi. Handi, c'est handi opposé à valide. Le débat est de savoir si nous devons refuser ou être reconnaissants ou reconnaissantes des questions que les autres nous posent sur nos maladies, troubles, symptômes, en fonction de nos expériences différentes, handicaps invisibles ou non, invisibilisation de soi en raison du handicap visible ou non, passing comme valide ou non. Les positions de chacun et de chacune sont différentes. Ce débat m'a mis profondément mal à l'aise. Pour moi, sur ce sujet, la vraie question à nous poser, c'est comment parler de ce qui m'arrive de manière à être entendu, à me faire comprendre et à obtenir le soutien dont j'ai besoin. Nous sommes beaucoup trop conditionnés à répondre aux attentes validistes. Nous avons besoin d'entraide et d'entraînement. Entre le début de ma maladie et aujourd'hui, il y a 20 ans, je n'ai pas arrêté de tester différentes manières de parler de ce que j'ai, et seulement depuis 2 ans, j'arrive à trouver les formules et les modalités d'expression qui font que mon entourage familial, amical, professionnel, que les institutions et les inconnus peuvent commencer à respecter mes besoins. Le débat m'a mis mal à l'aise car il donnait le premier rôle aux valides. Ont-ils le droit ou non de poser leurs questions ? Leurs questions sont-elles les bienvenues ? À quelles conditions un ou une valide peut nous poser une telle question? Si c'est un proche, un collègue, un inconnu, si la formulation est comme ceci ou comme cela, tout tournait autour de l'attitude des autres, de leur légitimité à nous questionner, etc. Tout tournait autour d'une évaluation de la gentillesse, de la bonne intention, de la bienveillance de personnes qui reproduisent un système validiste qui nous opprime. Pour faire un parallèle avec le sexisme, la question n'est pas de savoir si les harceleurs veulent seulement draguer, ni si dans certaines circonstances bien précises un flirt est consensuel, ou si ce sont des mecs gentils, si nous devons être reconnaissantes de l'attention qu'ils nous portent. Le problème est que le harcèlement sexuel est structurel, extrêmement fréquent et fondamentalement sexiste, exercé hyper majoritairement par les hommes cis sur les femmes. Le débat aurait dû tourner autour de nous, les facilités ou difficultés que nous avons à parler de nous, à obtenir l'attention des autres, dans les temporalités et les modalités dont nous avons besoin, le fait que nous soyons damnés à attendre de faire l'objet de l'attention des autres pour pouvoir dire ce dont nous avons besoin, le fait que lorsque nous ne voulons pas faire l'objet de l'attention indésirable des autres, nous nous sentons quand même obligés d'y répondre, c'est ça le problème, c'est ça dont nous devrions discuter. Avez-vous déjà remarqué comment à certains moments certaines personnes autour de vous sont curieuses et attentives pour vous entendre parler de vos troubles et les mêmes personnes à un autre moment vont complètement passer outre et ignorer vos demandes explicites parce que cela les arrange? Je suis profondément persuadé qu'il est dangereux de faire passer le message aux valides et que leurs questions nous rendent visibles, nous font du bien ou qu'elles sont tolérables. Non, c'est à nous collectivement, progressivement, d'apprendre à prendre la parole, de nous soutenir et de nous entraider dans cet apprentissage, d'en parler avec nos mots, diagnostic ou pas, où on veut, quand on veut, à qui on veut, en racontant notre propre histoire. C'est à nous de définir le cadre et les modalités des informations que nous donnons sur nous-mêmes. Ce n'est pas aux autres d'utiliser nos témoignages pour venir confirmer leurs fables validistes. Mon handicap, ce n'est pas mon corps, mais c'est toi. N'oublions pas que nous avons nos corps, nos maladies, nos troubles, nos dysfonctionnements, nos perceptions et que nous vivons avec. Ce qui nous handicape, ce n'est pas notre corps, mais le monde inadapté et oppressif dans lequel nous vivons. Des inadaptations et oppressions qui sont répétées quotidiennement par notre entourage. Lorsqu'on nous demande quel est ton handicap, une belle réponse anti-validiste serait de pointer les choses qui nous limitent, qu'il soit question d'accessibilité, de films validistes, de langage validiste ou de discriminations au travail. Pendant trop de siècles et beaucoup trop souvent, le validisme nous fait considérer que la maladie, le trouble, le dysfonctionnement, etc. sont anormaux. Nos corps deviennent des objets de l'attention publique. On nous classifie, on nous exclut, on nous laisse mourir et on nous tue au nom de ce regard médical. Nos corps sont normaux. À force de taire et de cacher toute anormalité, on en a oublié combien nous sommes nombreuses, nombreux et divers. C'est au nom de cette anormalité que nous sommes questionnés, tout comme le racisme nous conduit à demander de manière curieuse, intéressée et bienveillante à une personne, entre guillemets, étrangère, d'où elle vient pour la faire parler de cuisine et paysages exotiques, pour cultiver une image de soi faite d'ouverture, de tolérance et de gentillesse. Tout comme le cis-sexisme nous conduit à demander à une personne queer avec qui elle couche, comment, de manière curieuse et bienveillante, pour comprendre son monde et lui dire qu'on est tolérant et ouvert. C'est le validisme qui conduit à questionner les personnes qui n'entrent pas dans la norme de la pleine santé sur leurs troubles. C'est le validisme qui pousse à leur extorquer un savoir sur elles-mêmes et ou sur eux-mêmes, dont nous, personnes, institutions, saurons très bien nous servir leur venue pour les discriminer et les amoindrir. Parle de soi ou pas? Il y a de très bonnes raisons pour lesquelles un diagnostic est confidentiel et soumis au secret médical. Un diagnostic peut provoquer des discriminations, harcèlement, ostracisme. Un diagnostic est toujours environné d'idées reçues sur la dangerosité, la mortalité, la contagion, l'anormalité, d'idées reçues sur ce qui doit être fait ou évité. Les institutions, formation, travail, logement, traitent les personnes différemment en fonction de ce que les bureaucrates imaginent des diagnostics. Cela peut avoir des conséquences graves sur l'accès à nos droits fondamentaux et pour notre survie. Parler de sa maladie en général est certes nécessaire pour obtenir des adaptations et des aménagements, mais souvent cela peut ouvrir la porte des intrusions inadéquates. Du paternalisme validiste à la dénégation de nos besoins en passant par le syndrome du chevalier blanc. Nous avons besoin de communiquer nos besoins et pour cela nous avons besoin d'apprendre tous et toutes ensemble une autodéfense antivalidiste pour mieux trouver notre place dans ce monde hostile. Parler de soi est extrêmement important pour être reconnu par son entourage et ses proches, être valorisé pour recevoir et donner de l'empathie. Nous avons besoin de reconnaissance, un besoin d'autant plus grand que les micro-agressions du quotidien sont nombreuses, que notre situation de vie est difficile, que nous trouvons peu de solidarité. Comment et où trouver cette reconnaissance? Comment la solliciter? Comment trouver cette reconnaissance d'une manière qui évite au maximum d'ouvrir la porte aux intrusions validistes qui vont exagérer ou minorer ou ne pas comprendre nos problèmes et d'en faire des sujets de l'attention publique? C'est encore un chantier qui est à mener pour nous, par nous. Oui, mais et celles et ceux qui se font du souci pour nous et qui veulent s'occuper de nous? Celles et ceux-là, on peut les aider aussi, les former pour qui elles trouvent les bons mots, les bonnes questions, solidaires, respectueuses, non intrusives, qui laissent la porte ouverte à notre prise de parole sans la cadrer dans leurs attentes. C'est encore une autre langue et une autre pratique. C'est aussi établir une autre relation d'entraide. Un troisième chantier pour nous et par nous, dont nous pouvons faire bénéficier toutes celles et ceux qui s'intéressent à nous. Un article donc de Mélie Truc, publié le 27 avril 2019. C'est quoi ton handicap? Et le prochain, eh bien, dans quelques minutes. Après, donc, un morceau de... Mosca et Chico. Devoir de folie.
Croyez-vous en votre fort intérieur que vous soyez mentalement touché?
Si je scie les câbles du mental, je m'insinue dans les caves de mes traumas.
Dans les galeries du trop, mais on est descendu trop bas. Trop près des gros drames atrophiés par les faux pas.
Dans les fosses noires se délitent les trophées du social. Enfant noyé par des faussaires de façade idéale.
Mascarade facile pour paraître normal. Formel, conserver sa folie dans le fort. Mort interdit d'être fragile, d'être celui qui s'en sort mal. Et quand la rage martèle, l'endormir dans du chloroforme.
Se dorer la couture pour s'arriver au conforme, telle idée rance du barbelé sur les doutes. Des diagnostics de barbares pour bien faire baler les fous. La santé des pharmaceutiques fabrique la maladie partout.
Parodie le soin à coups de camisole de dégoût. Tu sors de la merde comme un parasol dans les égouts.
La glaire des savants asservis n'éclaire que des autopsies aseptisées. Des inertes inepties médicrades.
Des crises d'épilepsie qui t'envoient dans un autopsie. Schizophrène psychotique t'inquiète, ton neuro dégrade.
Il est fou, il est fou, il est fou, il est fou.
Quand on est enfermé, un jeune cadre comme ça, man, dans
une pièce
blanche, avec une blouse blanche, voir tous les jours du blanc, pas voir un seul pet de soleil.
Pour les médecins,
à la fin, on devient fou,
il est fou.
Comportement normé, pour être normal il te faut un cerveau bien bordé. Par des rationnels dans une tête bien formée. Si t'es trop bordé ou borné, on te préfère enfermer. Diagnostiqué malade pour te soigner, on veut t'interner. Faire de ta folie un monstre morné. T'injecter des psychotropes et te passer la corde. Au coup mort vivant tu dors debout, étranger dans ton propre corps. Fou, allié, donc les psy décident de ton sort. Pourquoi tu crois qu'autant de gens sont sous antidépresseurs? Pour traverser ton marasme il y a l'industrie des passeurs. Des producteurs de pastilles, de salades dans un poster, l'empire pharmaceutique dont les médecins se font les passeurs. Prescrivant des postiges pour effacer des tâches. Anxiolytique et pastille, ça fait pas bon ménage. Ça rend ta folie moche et de la vie ça te détache. Viens on allume la torche pour cramer l'industrie psychotrage. Ton potentiel de psychopathe normal s'appuie la prise aux portes de la conscience. La raison n'est que le videur qui supporte l'odeur de la ruelle. Où j'ai la mémoire laissée pour morte. Où trône les trop pleins de traumas qui gangrènent dès qu'on les apporte.
Permis de se guérir en lâchant prise nos forces vives. Accusés à tort par les entraves systémiques.
Prendre le droit de l'entorse ivre. Se
s'autorisant la dérive. Roger le mort, jouer le faux accord, échapper au contrôle systématique.
Tirer le faux du vrai, donner des formes aux monstres. Faire jaillir des entrailles, tout ce que la peur embryonne. Extirper des entailles, les charges d'infection. Exhumer les souvenirs, figer, rugir avec les lions. Déchirer scrupuleusement chaque axiome. Se rouler nu dans la vase, oser la transe et les grimaces. Bavir de grâce, la saveur rentre. Les exilés de la réussite se croquent dans des pommes. Immolent dans l'acide, les idoles placides. Plus on se fuit, plus on se fige, plus on s'affole en silence. Rompre avec son corps, c'est s'enfoncer dans la déchéance. Fuis le DSM des psy, prend soin d'expliquer le vide qu'infligent les bugs. Court-circuit dans les neurones, comportements normaux. Débordements dangereux, débordements mentaux. Effacement de mémoire, fragments d'histoire fragilisés. Folie saine d'un environnement alité. Des nuances à ce pamphlet, le danger s'est identifié. Au rôle sachant patient, tenir pour acquis d'incomplète science. La médecine industrielle sauve des vies impondables. Fragmentation occidentale engendre tellement de mots d'être. Le savoir médical est un sévice carcéral quand il condamne au lieu de permettre. C'est une science trop sûre d'elle-même. Des fois elle sert, souvent elle raye. Nos pouvoirs de guérison, ce que les sorcières incarnèrent.
Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître de la Fédération anarchiste, c'est toujours l'entonnoir. Et voici donc le deuxième article de Mélitruc, publié le 1er septembre 2017 et intitulé Diagnostic. Diagnostic, oui, tout simplement, diagnostic. Tu n'es pas ton diagnostic. Le diagnostic, c'est un raisonnement hypothétique basé sur des indices. Ceux que nous exprimons comme douleur, comme dysfonction observée, et ceux qui résultent des examens, tests et manipulations. Le diagnostic peut être juste, incomplet, partial, faux, trompeur, lorsqu'un problème en cache un autre. Le diagnostic fait référence à un modèle de la maladie trouble idéale avec ses variations inexpliquées et subtilités incomprises. La médecine n'est pas du tout une science exacte et certainement pas une science humaine. Le diagnostic donne une étiquette au patient, une étiquette qui localise son problème sur la grande carte des choses que la médecine catégorise, traite et croit comprendre. Une étiquette qui construit une image de soi à ses propres yeux et aux yeux de son entourage. Elle fait peur, pitié, sourire ou soupirer. Le diagnostic dirige les soignants vers des modes d'emploi balisés de traitement et thérapie, itinéraire validé par le système de la médecine universitaire, de l'économie et administration de la santé. Dans un contexte validide, sexiste, raciste, classiste. Alors sur ce dernier mot, classiste, je ne sais pas si comment le prendre, parce que ben, la société de classe, ça existe, donc on n'invente rien. Mais par contre, le classisme, c'est peut-être le fait de stigmatiser quelqu'un par rapport à sa classe, et notamment parce qu'il est pauvre. Mais ou elle est pauvre. Mais bon, voilà, ce n'est pas clair, en fait. C'est pour ça que j'emploie assez rarement, ce n'est pas un mot que j'ai l'habitude d'employer. Je ferme la parenthèse et je poursuis. Le diagnostic est ce qui empêche tous tes interlocuteurs et interlocutrices de t'entendre, de t'écouter, de te respecter. Ils et elles auront de grandes difficultés à percevoir la personne derrière la maladie. Ils te comparent, te mesurent, te jugent à l'aune de ton diagnostic. Le diagnostic peut t'empêcher de ressentir et de comprendre ce qu'il se passe dans ton corps. Le diagnostic identifie ce qui n'est pas normal, la chose organique étrangère infiltrée en toi. La chose contre laquelle tous et toutes attendent que tu te battes, toi qui n'as déjà plus de force, mais que tout le monde admire d'avoir la force de ne pas être déjà battu. Le diagnostic ne t'aide pas à te réconcilier avec ton corps. Ce n'est pas ton diagnostic qui va te soigner. Ton diagnostic orientera tes soignants vers un parcours de soins que tu mèneras bravement comme prévu parce qu'aucune de nous n'y comprend rien. Tes soignants non plus. Ils ont appris comment faire, mais ils ne connaissent probablement pas et comprendraient très certainement très mal l'état de l'art, de la discussion scientifique sur le rôle que joue le calcium dans mon système nerveux défaillant, par exemple. Ton diagnostic et les soignants, le nez sur les indications, ne te fera jamais respirer profondément ni goûter les minuscules essentiels plaisirs de la vie, du vent sur ta peau, du goût de ce que tu aimes manger et du rythme de ta musique préférée. Ton diagnostic ne nourrira pas ton âme de belles histoires et de propos réconfortants. Il ne te prendra pas dans ses bras, il ne te câlinera pas et ne caressera pas ta peau. Pendant des années de consultation, le seul contact tactile avec les « soignants » entre guillemets, pourra se limiter à la poignée de main et la pression du tensiomètre. Ton diagnostic ne te fera pas rire, ne te rappellera aucun bon souvenir et ne te projettera pas dans un futur désirable. Ton diagnostic ne t'aidera pas dans ta vie quotidienne à accomplir les tâches nécessaires devenues impossibles. Ton diagnostic n'écoutera jamais tes peurs, tes colères, tes désespoirs, tes joies et tes espoirs. Il ne te comprendra pas. Il ne te regardera pas dans les yeux. Ton diagnostic n'est qu'une partie de ton trouble. Tu as le droit de décider que ton diagnostic est important ou indifférent, qu'il est vrai ou faux, qu'il est incomplet, et même refuser le diagnostic. Ton diagnostic peut te soulager ou te faire mal. Dans les deux cas, il y a toujours autour du trouble identifié par le corps médical une nébuleuse de choses qui font partie de ton trouble que personne d'autre que toi ne voit ou ne prend au sérieux. Cette nébuleuse gravite autour de la souffrance des limitations concrètes, la souffrance des empêchements produits par un monde inadapté et invalidant, la souffrance de la distance créée avec les autres, adaptés et valides, la souffrance de ne pas être compris, la souffrance des injonctions impossibles qui nous sont faites d'être sains, guéris, valides et fonctionnants alors même que les moyens de nous soigner nous sont parcimonieusement retirés. Prends soin de toi, autant que tu le peux. Dans la mesure du possible, demande que l'on prenne soin de toi, surtout celles et ceux dont c'est le métier. Fais attention à et prends soin de toutes celles et ceux qui prennent soin de toi, parce que c'est toi et parce que c'est elles et eux. Voilà, c'est le dernier article pour le moment, donc de cette émission d'aujourd'hui. Oui, je dis pour le moment parce que en fait, il nous reste encore 5 minutes. Et là, eh bien, je n'ai pas de... Non, ben non, c'est... Voilà, aujourd'hui, il n'y a rien de plus. Eh bien, voilà, mais bon, on va continuer peut-être avec une autre chanson. Ou alors un morceau de... Par exemple, de Memphis Slim, The Big Race. Et voilà, ainsi donc se termine l'entonnoir et nous vous disons à la semaine prochaine. L'émission qui va suivre, Un rayon de soleil, qui va parler de résistance. Un rayon de soleil, une émission de Radio Libertaire Méditerranée. Salut!
You know, up stepped a donkey, whom I've always bet it on. A good jockey. A jockey who was willing to fight. And take the inside track and come on out front with that civil right. Grandstand and be served. And be accepted cheerfully, which we so rightly deserve.
rayon de soleil.